Et si notre univers n'était qu'une poussière au milieu d'une multitude d'autres univers, des découvertes récentes permettent d'imaginer des mondes parallèles aux nôtres, des idées audacieuses qui remettent en cause l'existence d'un univers unique. Plusieurs théories existent actuellement au sujet de ce qu'on appelle les multivers, mais comment évidemment confirmer ou infirmer l'existence de ces univers multiples? Quelles lois physiques peuvent s'appliquer à cette idée? La science-fiction a depuis longtemps franchi le pas en exploitant le concept de ces univers parallèles. Voyage au-delà du visible et du concevable, cet après-midi avec mon invité, l'astrophysicien Aurélien Barreau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Aurélien Barreau, vous publiez aux éditions d'UNO des univers multiples, sous-titrés à l'aube d'une nouvelle cosmologie. Vous êtes professeur à l'université Joseph Fourier de Grenoble et chercheur au laboratoire subatomique et de cosmologie au CNRS. Et j'ai beaucoup de questions à vous poser sur ce concept passionnant et totalement déroutant des multivers. Multivers qui posent des questions fondamentales, des questions sur la nature du monde et sur la nature même de la science, comme vous l'écrivez. Comment est-ce qu'on peut imaginer un ailleurs aussi radical? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. On a une demi-heure pour en parler, avec bien sûr les questions des auditeurs qui nous rejoignent en direct sur le site de l'émission franceinter.fr et sur les réseaux avec le hashtag l'attaque. Aurélien Barreau, on se retrouve donc dans un monde parallèle d'ici quelques minutes. On terminera cette émission bien sûr avec le quiz scientifique en compagnie de Florence Porcel. Violaine Ballet est aux commandes de cette tête au carré qui a été préparée par François Mercier et Hugo Struna.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le mardi du docteur Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous souhaitez nous parler du virus Ebola aujourd'hui à l'occasion de la guérison de cette femme espagnole, Teresa Romero.
Et oui Mathieu, cette aide-soignante est devenue célèbre en devenant la première malade à avoir été contaminée par le virus Ebola en dehors de l'Afrique, au contact d'un malade rapatrié et soigné en Espagne.
On a appris dimanche qu'elle a finalement présenté une forme peu agressive de la maladie permettant une guérison rapide.
Et oui, et paradoxalement, cette bonne nouvelle pour Teresa et sa famille n'en est pas forcément une pour nous.
Voilà, et vous jouez encore au rabat joie, comme d'habitude, finalement.
C'est vrai, mais je ne suis pas le seul. J'invite nos auditeurs à réécouter Philippe Kourilski, professeur au Collège de France et spécialiste du système immunitaire, qui était votre invité il y a un mois.
Le virus Ebola, au départ, tuait 90% des personnes infectées. Aujourd'hui, les souches qui circulent, ça a l'air d'être environ 50%. C'est-à-dire que 50% des personnes infectées survivent. C'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que l'intérêt biologique d'un virus, c'est pas forcément de tuer tout ce qu'il rencontre, parce que s'il tue tout ce qu'il rencontre, il a plus de quoi pousser. Et donc le fait que le virus Ebola soit moins virulent, comme on dit, veut peut-être dire qu'il aura plus de facilité à se répandre. Donc il faut faire extrêmement attention.
Ce que nous dit Philippe Kourilski, c'est bien que si un virus mortel à 90% est un danger majeur sur le plan individuel, une souche de virus moins agressive pourrait bien être encore plus dangereuse sur le plan collectif. Nous vivions jusqu'ici dans l'idée que le virus Ebola provoque toujours des symptômes importants et notamment une fièvre élevée. Nous savons aussi qu'il n'est heureusement pas contagieux chez les malades qui n'ont pas encore de symptômes. Et ce sont ces deux éléments qui ont permis de penser qu'il ne pourrait pas y avoir d'épidémie en Occident, les cas de fièvre Ebola étant faciles à identifier et des mesures sanitaires strictes permettent de limiter la contagion et d'enrayer la dissémination du virus. Or, ce dogme de la fièvre supérieure à 38,5 associée à des symptômes importants vient d'être mis à mal par le cas de Teresa Romero, qui n'a d'ailleurs pas été prise au sérieux au début de sa maladie, car elle n'avait que 38 de température et se portait pas si mal finalement. Il pourrait donc exister des formes de la maladie susceptibles de passer inaperçues. Et si par malheur, ces malades, à moitié malades, étaient quand même contagieux, notre vision de la maladie à virus Ebola pourrait être profondément modifiée. Il faut bien comprendre, comme l'a dit Kourilski, que les virus ne cherchent pas à nous tuer. Pour eux, nous ne sommes pas des proies, mais des usines de reproduction et de dissémination. S'ils le pouvaient, les virus feraient tout pour nous empêcher de mourir. C'est le cas pour la totalité des virus qui cohabitent depuis longtemps avec l'espèce humaine. Les souches de virus très agressifs, les gros bourrins, ceux qui tuent leurs hôtes, n'ont pas résisté à la sélection darwinienne, ces crétins. Les virus tueurs sont souvent ceux qui proviennent d'une autre espèce et qui ne se sont pas adaptés chez l'homme. L'oiseau pour la grippe aviaire et la célèbre chauve-souris maintenant pour le virus Ebola.
Bon, soyez quand même polis avec les virus, Dominique. Hein. Cela dit, c'est quand même très inquiétant ce que vous nous racontez là.
Eh bien, pas tant que ça, heureusement. Car si le virus de la grippe se diffuse par la toux et les sécrétions nasales, Ebola se transmet surtout par le sang, les vomissements ou les selles. ce qui est beaucoup plus difficile dans un pays possédant de bonnes infrastructures sanitaires. Il est probable, à défaut d'être certain malheureusement, que la contagiosité des formes modérées de la maladie sera faible et que nous ne serons confrontés qu'à des cas sporadiques. L'annonce ce jour de la fin de l'épidémie au Nigeria va dans ce sens.
Ouais. Et malheureusement, en Afrique, c'est quand même le problème des infrastructures sanitaires.
Exactement. Hein,
évidemment, qui permettent au virus de faire autant de victimes. Merci beaucoup, Dominique. On se retrouve mardi prochain. Et bien sûr, cette chronique est à réécouter sur franceinter.fr. Allez, nous partons dans les mondes parallèles, les multivers, au menu donc de cette tête au carré dans un instant avec mon invité, l'astrophysicien Aurélien Barreau. Tête au carré qui démarre avec Moodoïd cet après-midi.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Maître, messieurs, j'irai droit au but. Ce photogramme a été pris en plein pôle Nord.
Lord Asriel, cette lumière monte d'un corps humain ou bien elle en descend ?
Oh non, ça descend du ciel, mais ce n'est pas de la lumière. C'est de la poussière. La poussière pénètre dans cet homme par son démon. Elle vient d'une ville d'un autre monde. Un monde assez semblable au nôtre, dans un univers parallèle qui coexiste avec le nôtre. Invisible, intangible, inaccessible, jusqu'à présent. De là et d'un milliard d'autres mondes, la poussière surgit. Des mondes avec d'infinies possibilités.
C'est une hérésie.
Non. c'est la vérité.
Et dans le domaine de la science-fiction, du cinéma, de la littérature, de la bande dessinée, on se régale hein, évidemment depuis longtemps avec ce concept d'univers parallèle. À l'instant, on entendait l'extrait du film « À la croisée des mondes » qui était sorti en 2007. Mais au-delà justement de la science-fiction, cette idée d'autres univers n'est pas qu'une bizarrerie hein, sortie tout droit de la tête de farfelu. Les multivers intéressent des scientifiques qui sont prêts à en formuler des théories. Pour nous en parler, donc l'astrophysicien Aurélien Barreau, vous publiez « Des univers multiples » chez Dunod à l'aube d'une nouvelle cosmologie. Et on discute ensemble de ce thème, bien sûr, avec les auditeurs. Déjà des messages sur franceinter.fr, les réseaux avec le hashtag l'attaque. Et ce thème assez fascinant, Aurélien Barreau, qui fait discuter autant le public que les scientifiques, d'ailleurs. Est-ce qu'on est encore dans une hérésie aujourd'hui, précisément, pour reprendre le terme de l'extrait tout à l'heure?
Ah, j'espère, parce que la posture de l'hérétique est toujours la plus subversive et donc la plus jouissive. Mais je crois effectivement que l'intérêt du questionnement est peut-être autant sur ce qu'il énonce, sur ce qu'il dit de la nature et de la structure de l'univers, que sur ce qu'il nous oblige à prendre en compte quant à nos attentes scientifiques. Et effectivement, il est très étonnant de voir qu'au sein même de la communauté des spécialistes et des professionnels, il n'y a pas consensus sur cette raison.
Oui.
Non pas à cause d'un désaccord sur les calculs scientifiques ou sur les modèles, mais plutôt sur la signification générale d'une posture scientifique ou sur les présupposés métaphysiques qui nécessairement encadrent, entourent et précèdent les énoncés scientifiques.
Donc c'est quand même une question qui est prise au sérieux.
Ah, c'est une question qui est prise très au sérieux, absolument.
On travaille là-dessus. C'est votre cas. Alors, comment on étudie les univers multiples dans un laboratoire?
Je dirais que les univers multiples ne sont jamais un sujet de recherche en tant que tel, mais oui. Pour un cosmologiste qui s'intéresse globalement à notre univers, on peut se rendre compte que dans un certain nombre de circonstances, il est indispensable d'y recourir pour tester ou mettre à l'épreuve une théorie scientifique donnée.
La théorie de la relativité générale, par exemple?
Oui, par exemple. C'est une bonne première considération parce que c'est l'archétype d'un modèle réussi. C'est une théorie qui est très bien comprise, qui est très bien connue, qui est très bien testée. Eh bien, cette relativité générale, dans 2 des 3 géométries qu'elle peut prédire en accord avec la description de l'univers, avec la cosmologie, donne naissance à un espace infini. Mais si l'espace est infini, les univers qui, eux, sont nécessairement de taille finie, au sens des univers visibles, alors ça signifie qu'il y a une infinité d'univers de ce type au cœur de l'espace infini. Donc vous voyez déjà, sans même recourir à aucune théorie exotique, sans même faire appel à de la physique spéculative, on fait déjà face
sur des
à
choses qui existent déjà. Voilà. Et donc la théorie de la relativité, par exemple, ouvre des portes à cette idée des multivers.
Exactement. Et s'il existe une infinité d'univers de ce type, alors tout ce qui existe doit non seulement se reproduire, mais même se reproduire une infinité de fois. Il doit donc exister un monde dans lequel nous avons la même discussion, donc le même passé, nos alter-ego, nos avatars discutent en ce moment, mais où l'émission ne va pas à son terme parce que vous jugez mon propos trop hétérodoxe et vous décidez de l'interrompre.
Il y aurait une divergence au fond.
Un autre monde, qui
nous permettrait d'être en parallèle. Dans l'extrait qu'on entendait il y a un instant, on évoquait des milliards d'autres univers. Ben pourquoi pas, après tout, comme les étoiles, comme les galaxies.
Et pourquoi pas une infinité, dirais-je.
Voilà.
C'est déjà
pas si mal. Aurélien Barreau, pourquoi on peut étudier aujourd'hui justement les multivers? Vous citez des exemples récents de l'actualité justement cosmologique, comme Bicep, comme Planck. Ça, ce sont des choses justement qui nous permettent d'avancer sur cette question?
Oui, je crois que ce qu'il est très important de comprendre, c'est que dans le cadre de la physique contemporaine, le multivers n'est pas en lui-même une théorie. Auquel cas, ce serait effectivement une théorie relativement spéculative et relativement peu convaincante. Il n'est pas inventé de façon ad hoc, par goût ou désir de complexité. Ce qui est important, c'est que le multivers, c'est-à-dire cette myriade ou ce chapelet d'univers multiples, apparaît au contraire comme une conséquence de théorie. Mais les théories en question sont mesurables, ici, sur Terre, sont testables sur Terre. La relativité générale, et nous verrons, je suppose, d'autres exemples, peuvent être mises à l'épreuve de l'expérience. Ce sont des théories scientifiques. Le multivers, ce n'est pas une autre théorie. C'est une conséquence de ces théories quand on les pousse à l'extrême, quand on les mène dans le retranchement et quand on en sonde toutes les conséquences.
Et ça, les scientifiques sont d'accord pour dire la même chose que vous sur cette question?
Oui, je crois que le désaccord fleurit quant au sens qu'il faut lui donner. C'est-à-dire que pour certains scientifiques, c'est une hypothèse. C'est une éventualité, dirais-je, parce que ce n'est pas une hypothèse, justement. C'est une éventualité, mais qui n'a aucun sens scientifique parce qu'elle n'est pas testable. Je crois que c'est une vision erronée. Pour d'autres, au contraire, c'est une conséquence qu'il faut prendre en compte lorsqu'on évalue le modèle.
Voilà, appuyé donc par des résultats expérimentaux récents. C'est pour ça que je parlais de
absolument.
Planck ou de Bicep, par exemple.
Parce que ces théories, en l'occurrence la relativité générale, peut-être l'inflation que nous évoquerons tout à l'heure, c'est-à-dire la croissance démesurée de l'univers dans ses premiers instants, sont aujourd'hui corroborées par les expériences. Et comme le multivers est une parmi d'autres, des conséquences de ces théories, tester ces théories, les confirmer par l'expérience, confirme par là même la conséquence du multivers.
Jean-Paul, ça paraît simple de le dire comme ça, hein, mais c'est un petit peu plus complexe. On va s'aventurer sur cette piste dans un instant. Jean-Paul, sur franceinter.fr, nous dit ceci. Si je comprends bien ce que nous disent les physiciens, les astrophysiciens, les premiers temps de notre univers, nous serons à tout jamais inaccessibles scientifiquement, donc déjà on va le préciser. Comment dès lors est-ce qu'on peut envisager par la science l'existence d'autres univers? Alors, les tout premiers temps, c'est quoi? C'est 380 000 ans, en fait, les 380
Alors, il faut faire attention. Effectivement, le satellite Planck mesure la lumière qui s'est découplée de la matière 380 000 ans après le Big Bang. Oui. Mais ce qui est miraculeux, c'est que dans cette lumière, des empreintes demeurent, des petites traces, des signes comme ça infimes de ce qui s'est passé dans un passé beaucoup plus reculé. Par exemple, un milliardième, deux milliardièmes, deux milliardièmes de secondes seulement après le Big Bang. Donc, on repousse sans cesse le mur du connaissable. Je crois qu'il ne faut pas être trop prescriptif quant aux limites du savoir. L'expérience nous prouve, l'histoire récente nous prouve qu'il est possible de remonter dans le temps bien au-delà de ce que l'on aurait cru il y a quelques décennies.
Mais est-ce que pour autant ça pourrait nous permettre d'envisager l'existence d'autres univers?
En fait, ce n'est pas directement lié, parce que ces autres univers ne sont pas particulièrement des conséquences de ce qui advint au voisinage du Big Bang. Donc la compréhension globale d'une structure de multivers n'est pas une conséquence directe de notre capacité à sonder le voisinage du Big Bang. Donc je dirais que ces questions sont relativement découplées. Il faut d'une part comprendre l'origine de notre univers, j'en conviens, et on fait des progrès extraordinaires, mais il faut d'autre part sonder la manière dont nos théories, dont nos modèles, dans nos paradigmes, c'est-à-dire notre représentation globale du monde, conduit à ces autres univers.
Qu'est-ce qui vous intéresse tant, vous, dans cette question des multivers, Aurélien Barraud? Parce qu'évidemment, il y a de la science, mais il y a aussi beaucoup de philosophie.
Voilà,
quand
il y a
même,
deux niveaux. Il y a un niveau purement scientifique. Je crois que si on veut évaluer la naturalité, c'est-à-dire la pertinence, finalement, d'une théorie scientifique, par exemple l'inflation. Aujourd'hui, en cosmologie, on a besoin de l'inflation. Eh bien, je crois que pour le faire de façon précise, il faut tenir compte du multivers. Si on regarde l'inflation dans un seul univers, elle apparaît très probable. Si on la regarde avec une multitude d'univers qu'elle génère elle-même, donc à mon sens, il faut le faire, ce n'est pas une option, elle devient beaucoup moins probable. Donc déjà au niveau scientifique, je pense que ça fait sens et que c'est une nécessité méthodologique. Mais au-delà, vous avez raison, je crois que ce qui est fascinant, c'est qu'on retrace ici des liens avec ce qu'on pourrait appeler le grand récit, c'est-à-dire cette vision globale du monde dans lequel on vit et cette pluralité des mondes physiques. C'est aussi, me semble-t-il, un appel à penser d'autres pluralités de mondes. La pluralité des cultures, la pluralité des sensibilités, les mondes animaux, par exemple, qu'on massacre et qu'on piétine, et vous savez que j'y suis très sensible, ou même les autres mondes humains, qu'on puisse un jour penser l'étrangeté de l'étranger, puis, pourrais-je dire, dans toute sa grandeur, qu'on puisse leur dire « soyez ici et ne vous incorporez pas, ne vous fondez pas dans le moule, montrez-nous vos différences ». Donc c'est une pensée de la différence.
Alors, le penser, c'est une chose, mais le tester, c'en est une autre. Et à la fin de votre livre, vous dites que c'est quasiment impossible de tester, au fond, cette idée des multivers.
Alors,
ça veut dire qu'on n'en aura jamais la preuve?
Soyons très clairs. Premièrement, nous n'aurons jamais la preuve d'aucune théorie scientifique. On ne peut jamais prouver une théorie physique, puisqu'il est impossible de sonder l'ensemble de ces prédictions, qui sont infinies. Donc aucune théorie, que ce soit la mécanique quantique, la relativité d'Einstein ou la mécanique newtonienne, n'a été et ne sera jamais prouvée. Donc ça, c'est un lieu commun épistémologique. Ensuite, vous avez raison. Ce qui pose problème avec ces univers multiples, c'est qu'on ne peut pas aller les voir. Par définition, si on pouvait aller les voir, ils feraient partie de notre univers. Si on dit que ce sont d'autres univers, c'est qu'on ne peut pas les observer. Donc ça pose problème. Est-ce encore de la science sérieuse? Je crois que oui. Je crois que oui parce que, et c'est ce que nous évoquions précédemment, ils ne sont pas en eux-mêmes un modèle. Ils sont la conséquence d'un modèle. Mais le modèle dont ils sont la conséquence est lui-même testable. Ici et maintenant, sur Terre, par des expériences tout à fait standards et tout à fait habituelles. Mon point de vue est donc que si ce modèle est rejeté, toutes ses conséquences, y compris le multivers, s'écartent simultanément. Si au contraire le modèle est corroboré, nous n'avons pas le choix. Il faut être cohérent et tenir compte de cette conséquence parmi d'autres.
Donc on peut accepter le modèle, mais aussi accepter l'idée que nous n'irons jamais voir si ces multivers existent.
En effet, ils sont découplés, mais ils n'en sont pas moins pertinents pour comprendre notre propre monde.
Alexandre demande, est-ce que le hasard joue un rôle primordial ou subalterne quant à la formation des univers multiples, Aurélien Barraud?
Eh bien, ça dépend des univers multiples. Nous évoquions la relativité générale, la grande théorie d'Einstein, qui nous montre que l'espace est dynamique. En relativité générale, tout est déterministe. C'est une théorie classique et le hasard ne joue aucun rôle. Au contraire, d'autres multivers apparaissent dans des théories où l'aléa joue un rôle central. Je pense bien sûr à la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est un des fondements de la physique du XXe siècle et du XXIe siècle. Et cette mécanique quantique nous impose de renoncer au reposant déterminisme de la physique classique et nous oblige en quelque sorte à penser dans un monde stochastique, c'est-à-dire effectivement régi par des probabilités. Là, effectivement, le hasard va jouer un rôle fondamental.
Alors vous faites quasiment une classification de ces multivers, c'est possible de le faire aujourd'hui ?
Oui, c'est une classification non hiérarchique.
Parce qu'on peut en imaginer de multiples, mais de très différents aussi. Hein.
Voilà, de multiples multivers, j'aime beaucoup ces diversités encastrées ou enchâssées les unes dans les autres. J'aime à penser une sorte de structure gigogne, c'est-à-dire en poupée russe d'univers multiples. Ce qui est absolument vertigineux, c'est que les différents types de multivers sont compatibles les uns avec les autres. Donc on peut imaginer que le multivers de la relativité générale soit lui-même couplé au multivers de la mécanique quantique qui vivent dans le multivers inflationnel. Et cette espèce de métadiversité constitue un paysage d'une architecture extraordinairement riche.
Multivers temporel sans changement des lois ou multivers temporel avec possible changement des lois, multivers spatiaux sans changement des lois. Il y a tout ce qu'on veut au pied des multivers au fond.
Il y a presque tout ce qu'on veut, mais une fois de plus, ce n'est pas une cartographie, si l'on peut dire, dans ce paysage du multivers ad hoc. C'est véritablement une exploration des conséquences des théories sérieuses dont nous disposons aujourd'hui.
Oui, c'est important de le préciser évidemment. Cette couverture-là, comment on choisit une image des multivers, Aurélien Barraud?
On choisit un bon éditeur, oui. Et on le laisse s'en occuper.
C'est ça, ça doit être un vrai casse-tête. Comment on représente justement ces multivers?
Oui, la représentation, c'est la difficulté du multivers, mais c'est la difficulté de toute la physique contemporaine. Il faut jouer avec l'abstraction et je crois, à un certain niveau, accepter la complexité mathématique, non pas nécessairement comme une tare ou une incomplétude ou une difficulté, mais comme finalement le cœur de la démarche.
À partir de quand, dans l'histoire justement des hommes, on a commencé à évoquer cette pluralité des mondes? Alors ça remonte à très loin.
Oui, bien sûr, on la trouve chez Anaximandre, chez Épicure, donc chez les penseurs grecs, et chez Lucrèce aussi, donc chez les latins.
De quelle façon on aborde cette question? Alors comment
on
en parle?
Alors là, de façon frontale, c'est-à-dire que chez Anaximandre, c'est lié à l'hyperon, c'est-à-dire au concept d'infini, et les mondes sont pour lui naturellement en nombre infini. Donc là, je dirais, chez lui, et c'est toute la différence, le multivers n'est pas un a posteriori, comme chez nous, c'est-à-dire une conséquence. Il est un a priori. Donc il dit un peu la même chose, mais pour des raisons très différentes. Mmh. Alors on le retrouve chez les grands penseurs de la Renaissance, chez Nicolas de Cus, chez Giordano Bruno, chez Rabelais.
Au Moyen-Âge, il s'est passé quoi avant la Renaissance?
Vous savez, le Moyen-Âge, c'est la grande période de la mise en ordre. Hein. Donc la mise en ordre augustinienne ne se satisfaisait pas de ces mondes multiples qui étaient très peu en adéquation avec les préceptes et les dogmes chrétiens. Donc au moins dans l'Occident, dont nous sommes aujourd'hui par une partie, le multivers n'avait pas bonne presse.
Donc il faut attendre la Renaissance.
Voilà, avec ce foisonnement d'idées nouvelles. Chez Bruno, c'est absolument extraordinaire parce que Giordano Bruno est un professeur très subversif, très insolent comme ça, et il va à la fois réhabiliter la pensée de la diversité dans le cadre des relations humaines et bien sûr dans le cadre de l'existence de différents mondes. On le retrouve chez Fontenelle, puis à l'âge classique, chez Leibniz, hein, le grand philosophe des mondes multiples, jusqu'à la philosophie contemporaine chez Goodman ou Lewis. Donc il y a une histoire parallèle, si je puis dire, de ces mondes parallèles, une histoire scientifique, une histoire philosophique et une histoire mythologique.
Et c'est cette histoire dont nous parlons cet après-midi avec vous, Aurélien Barraud, des univers multiples aux éditions d'Uno.
Took me for granted.
Senaïbo Say, Hard Time à l'instant sur France Inter. Aurélien Barraud, des univers multiples à l'aube d'une nouvelle cosmologie. C'est aux éditions Duno, dans la collection Quai des Sciences. Quand on parle de multivers, ce sont les multiples univers, c'est ça hein?
Absolument.
C'est une contraction pour expliquer cela, ou les univers parallèles. Ces mondes qui nous intéressent donc cet après-midi avec les messages des auditeurs, franceinter.fr et le hashtag l'attaque sur les réseaux. C'est vrai que je disais tout à l'heure en présentation, la littérature, la BD, le cinéma, tout ça, c'est vraiment engouffré avec délices hein, dans ces univers parallèles. Ça a inspiré beaucoup de monde.
Oui, mais je crois qu'il faut s'en réjouir. Je veux dire que la science soit un matériau à façonner et qu'il irrigue ou qu'il innerve les pratiques artistiques, je pense que c'est une très belle chose.
Et parfois d'ailleurs, l'art a des idées qui précèdent celles des scientifiques. Est-ce que dans le monde des multivers, on a eu des idées intéressantes avant même que les scientifiques les posent sur la table?
C'est possible. Il y a souvent des périodes de convergence, comme ça on l'a vu au début du XXe siècle, on invente la mécanique quantique, la relativité générale, Kandinsky invente les premières abstractions, Schoenberg écrit son quatuor accorde en fa dièse mineur numéro 2. Il y a des périodes comme ça où les choses s'agencent ou plutôt se désagencent simultanément. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui ces choses fleurissent, mais on le verra a posteriori. Ouais. On ne le voit jamais de l'intérieur. Je crois que c'est après coup que l'ensemble de l'édifice apparaît dans sa cohérence sociétale globale.
Cet agencement, il est lié à quoi selon vous? Comment sait-il qu'à un moment, il y a une convergence des esprits et de la créativité?
Probablement quand le vieux modèle commence à trop crouler sous le poids des ans, quand le paradigme dominant, c'est-à-dire toutes ces théories, mais théories pas seulement au sens scientifique, aussi au sens intuitif, toutes ces représentations du monde commencent à devenir trop pesantes et qu'il y a peut-être une aspiration d'ensemble à changer de représentation.
Est-ce qu'il y a un souhait d'émancipation aujourd'hui dans l'astrophysique?
Je l'espère.
Est-ce que la théorie de la relativité générale est un vieux modèle ou pas?
Oui, mais vous savez, dépasser un modèle, c'est jamais tuer le père. Newton était incorrect, mais il est toujours omniprésent dans nos calculs et dans notre pensée. Quand la relativité générale sera dépassée et sera remplacée, et elle le sera, Einstein n'en demeurera pas moins un génie pour l'éternité.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, justement, dans le monde de la cosmologie, de l'astrophysique? Comment on pourrait résumer le portrait de cette discipline aujourd'hui?
Eh bien, d'un certain point de vue, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, du multivers précisément, puisque nous avons un scénario cosmologique qui est extrêmement cohérent, nous comprenons très bien l'essentiel de l'histoire de l'univers, mais d'un autre point de vue, nous sommes grévés par de grandes incohérences, nous avons de la matière noire dont nous ne connaissons pas la nature, de l'énergie noire dont nous ne connaissons pas la nature, et nous avons le Big Bang lui-même qui est en quelque sorte un défi, parce que l'instant originel n'est pas descriptible par la théorie d'Einstein. Autrement dit, le grand manque. Et ça fait presque un siècle qu'on le sait, qu'on sait que c'est un manque, mais qu'on ne trouve pas l'explication ou la solution, c'est de concilier d'une part la théorie d'Einstein et d'autre part la mécanique quantique. Et aujourd'hui, ces deux grands piliers de la physique sont essentiellement incompatibles.
Est-ce qu'on est sur le point de d'unifier tout ça ou pas ?
Il y a de belles idées, il y a la théorie des corps d'une part, la gravité quantique à boucle d'autre part, elles sont convaincantes, elles sont éloquentes, elles sont développées. Il n'y a toujours pas d'indication observationnelle en leur faveur.
Oui. Frédéric nous dit ceci, il n'y a rien de mal à faire des spéculations philosophiques fondées sur la science, mais est-ce qu'il ne faudrait pas leur appeler les choses par leur nom? Alors, est-ce que la question des multivers, ça n'est que de la philo ou pas?
Alors, que de la philo, déjà, ça serait un peu péjoratif. Moi, vous le savez, chez moi, le terme philosophie ou métaphysique est tout sauf péjoratif, et je n'aurais aucune difficulté à me vanter ou à être fier d'un geste philosophique. Mais je crois que l'erreur, si l'on peut dire, ou l'incomplétude de cette remarque, c'est de croire que la science c'est bien déterminé. Comme si un geste scientifique, c'était quelque chose de clair, qui obéissait à un principe simple. Et Dieu sait que l'histoire ne manque pas de principes, Karl Popper a fourni le plus connu d'entre eux. Mais c'est pas vrai. Aucun geste scientifique réel ne peut être décrit par quelque chose qui cernerait de façon claire et non ambiguë, de façon définitoire, ce qu'est une démarche scientifique.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec la théorie de la relativité, par exemple.
Absolument. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, dans l'histoire de l'art. Je veux dire, ni le Fontaine de Duchamp, ni les Bois de Brio d'Andy Warhol, ni le concerto à la mémoire d'un ange de Berg n'auraient été considérés comme de l'esthétique par un théoricien de l'art du XVIIIe siècle. Et pourtant, c'est évidemment de l'art vu d'aujourd'hui. Si la science venait à évoluer et à faire en quelque sorte migrer ses propres limites, ses linéaments, ses frontières, je crois qu'il serait dangereux d'en dissuader a priori. Je dirais que nous saurons plus tard si c'est de la science. Pour l'instant, il faut essayer.
Ouais.
Ça sera l'impasse ou ça sera la grande révolution.
C'est compliqué parce qu'on a envie d'avoir des certitudes avec la science. Hein. On parle de rationalité.
Oui, mais précisément, la science ne fournit jamais de certitudes. Je crois que la pensée scientifique,
c'est une pensée de doute permanent. Mais il y a un malentendu là-dessus, au fond, sur le rapport qu'on a à la science.
Ah, c'est un immense malentendu.
Parce qu'on se réfère toujours à la science.
Et mes étudiants en première année d'université sont parfois effondrés quand je leur dis, si vous voulez des certitudes, faites de la théologie.
Ouais.
Parce que là, les textes sacrés sont donnés une fois pour toutes. Si vous voulez penser en scientifique, il faut toujours être prêt à la remise en cause et à la déconstruction.
Aurélien Barreau, Sliders, les mondes parallèles, c'est une série télévisée de science-fiction, une série américaine qui était sortie dans les années 90. C'est l'histoire d'un jeune étudiant, un génie de la physique, qui invente dans son sous-sol un appareil capable de générer un vortex qui débouche sur des réalités parallèles. Extrait.
Septembre. Mes tentatives pour créer le premier appareil antigravité au monde ont décidément pris une tournure bizarre, curieuse, mais il n'est pas antigravité. Il sert à quelque chose d'autre, c'est évident. Mais à quoi ? Ah ! 21 septembre. Après des jours et des jours d'analyse attentive, j'en suis arrivé à la conclusion que le centre de ce cercle pourrait être l'embouchure d'un tunnel. Peut-être un passage vers un autre monde.
Oui, ça va trop.
Voilà, l'embouchure d'un tunnel, le passage dans un autre monde. Ça fait penser au trou noir, finalement, ça, Aurélien Barreau, non ? Est-ce que ça pourrait pas être une voie de passage ?
Oui, de façon très métaphorique, ça peut effectivement faire penser aux trous noirs, qui sont des objets fascinants, parce qu'ils poussent, bien sûr, la relativité dans ses retranchements. Et surtout, ce sont des objets dont, aujourd'hui, plus personne ou presque ne doute de la réalité. C'est-à-dire qu'ils font partie du bestiaire de l'astrophysicien, ils sont autour de nous, ce ne sont pas de simples spéculations théoriques. Et en effet, ils peuvent ouvrir quelques portes sur d'autres univers.
Ouais, vous dites des trous noirs que ce sont des zones en quelque sorte détachées du reste de l'univers.
Bon, la définition d'un trou noir est très simple. Hein. C'est un lieu dans lequel on peut entrer, mais dont on ne peut s'extraire. Et en ce sens, ils sont effectivement détachés, puisqu'on ne peut pas venir de l'intérieur d'un trou noir et remonter en quelque sorte le cours de l'espace pour se réintégrer dans notre monde. Donc de ce point de vue, ce sont, dans une certaine acception, d'autres mondes.
D'autres mondes qui permettraient de passer vers d'autres mondes là aussi ?
Oui, alors ça c'est une possibilité qui a été très étudiée dans les années 1970 par des gens extrêmement sérieux, quand effectivement on étudie la structure mathématique d'un trou noir, ce qu'on appelle la continuation analytique maximum, il apparaît effectivement de façon assez étonnante et imprévue l'existence d'une infinité d'autres univers. Alors, on ne sait pas, on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un artefact mathématique, ce qui est tout à fait possible, hein, ou s'il s'agit en réalité des indices d'autres mondes physiques, réels, matériels,
ouais,
et peut-être même explorables, parce qu'en effet, pour certains trous noirs, en particulier les trous noirs en rotation, c'est-à-dire les trous noirs réels, hein, finalement, il n'est pas tout à fait exclu d'un point de vue théorique de passer d'un monde à l'autre. Alors, pour être parfaitement sincère, je n'accorderais pas un très haut niveau de crédibilité à ce multivers-là, parce qu'on a de bonnes raisons de croire que ces points de passage, qu'on appelle les trous de ver ou des ponts d'Einstein-Rosen, sont très instables, et parce que je pencherais pour l'artefact mathématique. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant de se rendre compte que ces structures-là, déjà, pointent du doigt ce type de possibilité.
Qu'est-ce qu'on appelle les trous blancs ?
Alors,
terme beaucoup moins connu que les trous noirs.
Oui, c'est en quelque sorte le symétrique temporel d'un trou noir. Dans un trou noir, tout peut entrer et rien ne peut sortir.
Ouais.
D'un trou blanc, tout peut sortir et rien ne peut entrer.
C'est tout.
Avec Carlo Rovelli, nous travaillons en ce moment sur un modèle où nous pensons que peut-être en réalité, les trous noirs n'existent pas vraiment et que les trous noirs sont des structures en train de rebondir. Un trou noir initialement qui devient troublant dans sa version ultérieure. Donc, beaucoup de choses restent encore à comprendre.
Et c'est très troublant, effectivement. Ouais, la perception réelle de notre univers, dit Fabien. Est-ce que ça ne dépend pas de notre capacité physique qui nous limite à trois dimensions ?
Alors, ça dépend évidemment de notre capacité physique au sens où celle-ci conditionne notre capacité cérébrale. Et ça, je crois qu'il faut rester très humble, très modeste. Ce que nous disons du monde n'est jamais qu'une construction humaine à propos du monde. La physique, à mon sens, ne donne pas accès à l'en-soi des choses, à ce que Kant appellerait le monde nouménal. Nous sommes encore très tributaires, de la finitude de notre cerveau. En revanche, je ne le suis pas sur la limitation à trois dimensions. La théorie des cordes en est un bel exemple. On sait aujourd'hui penser dans le cadre d'espaces multidimensionnels et ça ne pose pas de problème particulier pour les mathématiciens que nous essayons d'être.
Aurélien Barreau, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça, même par définir ce qu'est un univers au fond, avant de parler des multivers, parce qu'il y a quand même quelque chose de d'assez troublant là aussi d'ailleurs dans la définition qu'on en donne aujourd'hui.
C'est un terme qui est très plurivoque. Effectivement, si par univers on entend au sens étymologique universus, c'est-à-dire au sens latin tout ce qui existe, alors bien sûr il n'y a qu'un univers. Le concept même d'univers multiple serait une contradiction dans les termes. Mais en physique, c'est rarement ce qu'on appelle un univers. Ce qu'on appelle un univers en physique, c'est plutôt la totalité de ce qui est observable, disons, avec des moyens infiniment puissants. Ça, c'est ce qu'on appelle en cosmologie le volume de Hubble. Le volume de Hubble, c'est tout ce que l'on pourrait voir avec des télescopes très au-delà de nos limites technologiques. En ce sens, on comprend très bien qu'il peut exister une infinité ou un très grand nombre de volumes de Hubble. Mais il y a des définitions plus génériques. Par exemple, en mécanique quantique, un univers sera une histoire possible de l'évolution de la fonction d'onde, c'est-à-dire de ce qui décrit le système. Par exemple, dans le scénario inflationnaire, un univers sera une bulle. Il existera ainsi une sorte de chapelet comme ça, hein, d'univers bulle qui se déploie de façon arborescente. Par exemple, en gravité quantique à boucle, où le multivers cette fois est temporel, c'est-à-dire que les univers se succèdent les uns les autres, un univers sera une phase de ce cycle. Donc vous voyez, suivant le contexte, le mot prend un sens différent.
Ouais, cette idée de finitude ou non d'ailleurs de notre univers, on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui.
Alors on ne l'a pas, il est possible qu'on ne l'ait jamais. Imaginez que nous soyons sur la surface la surface de notre planète et que l'on vive dans un petit pré de quelques centaines de mètres carrés. On ne verrait pas la rotondité de la Terre. Donc la Terre nous apparaîtrait plate et on aurait très peu d'indices pour savoir qu'en réalité, elle est ronde et finie. C'est un peu ce qui se passe à l'échelle de l'univers. On voit un univers qui est très plat, alors pas plat au sens écrasé, mais plat au sens tridimensionnel, c'est-à-dire euclidien. Par conséquent, il est sûr que l'univers n'est pas petit. Ça, c'est acquis. L'univers est immense. Mais est-il immense et fini ou est-il immense et infini? Nous n'en savons rien et nous n'en saurons peut-être jamais rien.
Oui, alors ça c'est évidemment très angoissant aussi parce qu'on se pose des questions sur ce qui nous entoure. Les tout débuts d'ailleurs du Big Bang et cet épisode de l'inflation, alors ça ressemblait à quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Alors à ce moment-là, ce qui nous entoure n'existait pas encore. Hein. L'univers était structuré par essentiellement des objets physiques qui nous sont peu familiers et ces derniers ont engendré une augmentation considérable de la taille de l'univers.
Alors par taille, au départ, c'était quoi? Donc, justement, on parlait d'une tête d'épingle.
Voilà, alors, si l'univers est infini, ça ne veut pas dire grand-chose de dire que sa taille augmente, parce qu'il est infini à tout instant. En réalité, ce qu'on appelle taille, c'est la distance entre les points. Ça veut dire que si je prends deux points dans l'univers et que j'attends un milliardième de seconde, la distance entre ces deux points a été considérablement augmentée. C'est ça l'inflation. Chaque point d'univers se trouve éloigné de chaque autre point d'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que cette théorie qui est aujourd'hui un des piliers du scénario inflationnaire, ce n'est pas une théorie exotique, hein, c'est un des socles de notre description de l'univers, semble produire de façon quasi automatique, non pas une bulle, mais un grand nombre et peut-être même une infinité de bulles d'univers. C'est une autre strate, un autre niveau du multivers. Alors peut-être d'autant plus fascinant qu'on le conjugue avec une autre théorie, qui elle en revanche est plus spéculative que l'inflation, c'est la théorie des cordes. Alors la théorie des cordes, bien sûr, nous n'en avons aucune preuve expérimentale, mais comme je l'ai dit, on n'a jamais de preuve d'aucune théorie. La théorie des cordes, c'est une tentative d'unifier toutes les descriptions physiques, et ce qui est fascinant, c'est qu'on a découvert il y a une décennie environ qu'elle génère non pas une loi physique, ce qui aurait peut-être été un succès d'ailleurs, mais hélas, si l'on peut dire, elle génère une quasi-infinité de lois physiques effectives différentes. Alors là, ça dépasse vraiment l'imagination. Parce que si l'inflation est réelle et produit cette infinité d'univers bulles, et que la théorie des cordes est réelle, et les structures, ou les remplit avec des lois différentes, pas seulement des phénomènes, ce qui est déjà inconcevable, mais des lois différentes, alors tout ou presque devient possible.
Pourquoi on l'appelle théorie des cordes, Aurélien Barreau, exactement?
Eh bien, parce que son fondement provient de ce que les particules élémentaires ne sont plus des points, mais sont des petits élastiques vibrants suivant les lois de la mécanique quantique. Et ça, ça a des propriétés mathématiques extraordinaires qui permettent de guérir un certain nombre de pathologies des théories usuelles.
Ah oui, carrément.
Carrément.
C'est une sorte de remède, alors?
C'est une sorte de remède. Vous savez, les physiciens sont des thérapeutes. Nous sommes là pour trouver des solutions aux problèmes.
Est-ce que le boson de Higgs, donc cet élément qui a été découvert très récemment, peut vous permettre d'avancer aussi sur la piste des multivers?
Non.
Il n'y a aucun rapport?
Moi, je fais généralement des réponses longues. Pour une fois, vous avez une réponse brève.
Merci
le boson
beaucoup.
De Higgs n'est pas très fondamental pour la cosmologie.
Pourquoi?
Le boson de Higgs est essentiel pour comprendre la structure interne de la matière. Personne ne remet en cause sa pertinence du point de vue de l'infiniment petit. L'existence du boson de Higgs ne remet pratiquement rien en cause du point de vue de la compréhension de l'origine de l'univers.
Romain demande sur franceinter.fr, est-ce que l'esprit humain pourra continuer à approfondir les confins des multiples univers?
Écoutez,
la façon de conceptualiser justement
les choses.
Je serais
bien arrogant de me croire en mesure de répondre à cette question. Disons simplement que je l'espère. La quête ne s'arrête pas ici. Je crois qu'il faut travailler sur tous les aspects. C'est-à-dire d'une part, tester les théories qui génèrent le multivers, le faire au niveau conceptuel, c'est-à-dire mathématique, la cohérence, le faire au niveau expérimental, c'est-à-dire tenter de les mettre à l'épreuve, et on le fait, hein, avec plus ou moins de succès, mais on le fait, et chaque décennie voit son lot de résultats spectaculaires, et il faut aussi le faire, me semble-t-il, comme le rappelait l'auditeur précédent, du point de vue philosophique, c'est-à-dire qu'il serait regrettable de faire naître ce foisonnement scientifique et de ne pas en tirer les conséquences du point de vue de la compréhension quasi mythologique de notre environnement.
Dans les années 50, Aurélien Barreau, vous racontez cette histoire dans votre livre.
Un jeune
étudiant de l'université de Princeton, Hugh Everett, a eu l'intuition que la physique quantique pourrait bouleverser le concept du monde. Qu'est-ce qu'il a proposé alors à ce moment-là ?
Alors, en mécanique quantique, les systèmes existent simultanément dans deux états. C'est-à-dire qu'un atome peut être simultanément désintégré et non désintégré, ce qui évidemment est en inadéquation flagrante avec notre expérience quotidienne. Alors comment se peut-il que les objets macroscopiques, c'est-à-dire les objets usuels, soient toujours dans un état unique, alors que les objets microscopiques, c'est-à-dire quantiques, qui les constituent, se trouvent eux simultanément dans deux états ? L'interprétation usuelle, c'est ce qu'on appelle l'effondrement du paquet d'ondes. Sans entrer dans les détails, c'est une hypothèse qui est, dirais-je, mathématiquement disgracieuse et conceptuellement coûteuse. Elle consiste à violer un certain nombre de postulats fondamentaux de la physique pour rendre compte de cette unité à partir de la diversité sous-jacente. Everett a une autre idée. Il s'est dit, finalement cette diversité est réelle, mais il y a un embranchement en univers parallèle. Autrement dit, un monde où le fameux chat de Schrödinger est mort et un autre où il est vivant.
C'est cette superposition quantique.
Oui, c'est une sorte de superposition qui va induire un foisonnement et un éclatement en quelque sorte en univers parallèle.
Aurélien Barreau, merci d'être venu dans la tête au carré cet après-midi. Ça s'appelle Des univers multiples, 150 pages pour aller donc dans le monde des multivers à l'aube d'une nouvelle cosmologie. Et c'est chez Duno. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi dans la tête au carré. Le quiz de l'émission dans un instant avec Florence Porcel. c'est Likely à l'instant sur France Inter. Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission. C'est le quiz de la tête au carré, c'est donc l'heure de jouer ensemble afin de tester vos connaissances scientifiques. Et pour cette mission hautement sensible, Florence Porcel est à mes côtés.
Comme bonjour Mathieu.
Bonjour Florence. On fait connaissance avec deux nouveaux auditeurs.
Mais oui, bonjour et bienvenue Françoise et Nicolas.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Françoise, vous habitez à Rougen.
C'est cela.
C'est dans l'Hérault.
Dans l'Hérault.
Vous êtes enseignante.
Oui.
Avec des classes de quel âge à peu près?
Du collégien.
Collégien. Qu'est-ce que vous enseignez en particulier?
Un peu de tout avec eux.
Ouais, donc un peu de science aussi.
Un peu de science aussi.
Nicolas, vous habitez à Boudy de Beauregard.
C'est ça, oui, un petit village de Haute-Garonne.
Vous êtes demandeur d'emploi?
Oui, je suis sans emploi pour le moment, mais j'ai en projet de m'installer comme agriculteur en production de plantes aromatiques et médicinales.
Bon, ben, je vous souhaite bonne chance dans ce nouveau projet.
Merci.
Cette semaine, Florence, c'est un cadeau made in la tête au carré que nous offrons aux auditeurs.
Oui, nous offrirons aux gagnants la boîte de jeu de la tête au carré des éditions Marabout, auquel on ajoutera le grand atlas géographique conçu par le journal Le Monde et les éditions Atlas.
Françoise et Nicolas, je vous souhaite donc bonne chance. La France vous écoute et on commence tout de suite avec la question d'actualité. Et nous avons d'abord un indice à vous faire entendre. Le voici.
Ceci est un neurolaser. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celles de la mémoire.
Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?
Excellente question. Et vous y trouverez la réponse en regardant ici.
On apprenait, Françoise et Nicolas, il y a quelques jours que des chercheurs américains avaient réussi à effacer la mémoire de souris à l'aide d'impulsions lumineuses. Faire donc oublier des souvenirs grâce à la lumière, ça n'est pas une idée nouvelle puisqu'elle a été utilisée en science-fiction. Et la question que je vous pose est la suivante. Dans quel film les personnages principaux utilisent l'engin effaceur de mémoire sur la population? Vous avez 30 secondes et l'extrait que nous entendions il y a un instant et justement issu du film dont j'aimerais que vous me donniez le nom.
Total Recall?
Non, ça n'est pas Total Recall. C'est un film pas très vieux, Florence.
Non, qui date de 97 pour le premier.
Et donc on utilise effectivement un engin effaceur de mémoire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Science-fiction.
Vaguement, mais alors.
Cherchez dans votre mémoire avec de grands acteurs très connus.
Avec des extraterrestres.
Si je vous dis Will Smith, par exemple. Nicolas et Françoise, ça ne vous dit pas grand-chose?
D'accord, Men in Black.
Eh ben voilà, Men in Black, effectivement. Mais c'est trop tard. Effectivement, il y a un engin, Florence, dans le film.
Qui s'appelle le neurolaser. Alors, c'est un procédé un peu plus complexe que le neurolaser qui a été mis au point. Dans une étude publiée il y a 10 jours dans la revue Neurone, des chercheurs annoncent avoir conçu un dispositif optogénétique implanté dans le cerveau d'une souris qui transmet un signal lumineux directement dans les cellules nerveuses. Alors, en désactivant les cellules de l'hippocampe grâce à une longueur d'onde spécifique, les souris oublient leur peur d'une cage qui représentait un danger pour elles.
Oui, la réalité va donc peut-être dépasser
la fiction.
Zéro point pour l'instant, donc tout est possible, Françoise et Nicolas, avec les questions de rapidité. Cette question que nous allons donc vous donner par ordre croissant de difficulté. Vous avez 1 minute 30 pour y répondre et nous pouvons lancer le chrono. Quel écrivain, Françoise et Nicolas, et philosophe des Lumières, a supervisé l'encyclopédie au 18e siècle? C'est Diderot, Françoise. Quel animal connu pour ses barrages possède des incisives qui poussent? Le castor, Françoise. Comment appelle-t-on la capacité à ressentir et à comprendre ce que l'autre ressent?
L'empathie,
Françoise. Oh là, c'est très serré entre vous deux. Dans quelle partie du corps se trouve le carpe?
Le poignet.
Le poignet, Françoise. Bonne réponse. Quelle journaliste française d'investigation a signé en 2008 le documentaire Le Monde selon Monsanto?
Elle a un prénom double.
Oui. Nicolas, je suis sûr que vous la connaissez aussi. Oui, bonne réponse de Françoise. Oh là là, comment s'appelait la bombe atomique qui a ravagé Hiroshima?
The Little Boy.
Bonne réponse, Nicolas. Et enfin, au large de quel archipel des volcanologues ont assisté en 2011 à la naissance d'un volcan sous-marin? Dans quel archipel? C'était 2011. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission, phénomène assez étonnant, qui fait naître des volcans à la vitesse grand V. C'est la dernière question. Vous avez le temps d'y répondre puisque vous avez bien répondu aux précédentes. Allez.
Alors, un archipel Hawaï, non?
Non. Non, plus proche de nous.
Les Açores.
Non.
Madère.
Non plus.
Les Canaries.
Les Canaries, Nicolas. Oh là là, bravo à tous les deux.
Oui, c'est assez impressionnant.
C'est la première fois que je pense que nous avons toutes les réponses au quiz, hein, Florence.
Oui, on a toutes les réponses au quiz.
Voilà, et c'était très serré entre vous deux sur les premières questions, puisque vous nous donniez chacun les bonnes réponses, mais c'est Françoise qui était la plus rapide,
oui,
j'ai l'impression.
C'est un petit peu déséquilibré quand même, c'est Françoise qui a 25 points contre 10 pour Nicolas.
On passe au mot mystère. Vous avez donc ce mot sous les yeux que nous avons transmis juste avant de prendre l'antenne ensemble. Et nous allons donc commencer avec Françoise, peut-être, Florence ?
Allez.
Vous connaissez le principe. Françoise, vous avez 45 secondes pour faire deviner votre mot à Nicolas. Et si vous êtes prête, on envoie le chrono ?
Allez,
c'est parti.
Donc, il s'agit d'une période géologique, de laquelle sont apparues les premières plantes à fleurs. Cette période tient son nom d'un atome qui est essentiel à la vie, qui se trouve être l'atome qu'on trouve dans le charbon, dans le diamant.
Le carbonifère.
Oh là là, oui, vous avez été sympa, Françoise. Ah, c'était vraiment très... C'est pour ça qu'on nous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette règle du jeu
qui donne des points à celui qui devine et pas celui
voilà,
qui pose la question.
On aide son adversaire, mais vous l'avez fait vraiment magnifiquement bien.
Bah, et Nicolas, c'est normal.
Voilà, alors il faut que Nicolas fasse la
même
chose
vous.
Avec vous. Nicolas qui a également ce mot mystère sous les yeux. Vous êtes prêt, Nicolas ?
Oui.
Allez, c'est parti, 45 secondes.
Alors, c'est un appareil qui est utilisé souvent en marine, qui utilise la propagation et la répercussion des sons dans l'eau pour détecter les...
Oh là là.
Nous sommes impressionnés par vos niveaux et votre efficacité à tous les deux.
Le sonar, appareil effectivement de détection sous-marine, qui utilise les ondes sonores, qui permet le repérage, la localisation, l'identification des objets immergés. C'est parfait.
C'est
donc
parfait.
On a vu une égalité avec le mot mystère.
Oui.
Donc c'est quand même Françoise.
Mais c'est quand même Françoise qui remporte le jeu. Toutes nos félicitations.
Bravo.
Oui, bravo. Vous repartez donc avec la boîte de jeu La Tête au Carré des éditions Marabout pour jouer avec votre famille ou vos amis et avec le grand atlas géographique du monde et des éditions Atlas.
Et avec vos élèves, Françoise.
Et avec vos élèves, Exactement. Vous pourrez jouer au jeu de La Tête au Carré.
Voilà, vous allez pouvoir tester donc leur connaissance. On vous envoie la boîte de jeu et le livre. Nicolas, bravo quand même.
Oui,
parce
bravo.
Que vous êtes très brillants tous les deux. Oui. Je pense qu'on va organiser des finales avec les meilleurs quiz. Donc je pense qu'on devrait vous retrouver tous les deux très prochainement. Merci en tous les cas d'avoir joué. Et pour ceux qui souhaitent faire comme vous, il faut s'inscrire.
Sur le site de l'émission sur franceinter.fr.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.